de philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 19 mai 94.
Ce soir à 6h, il n'y aura pas de cours parce que je dois faire une petite conférence à ceux qui feront profession perpétuelle à Paris. Demain, il n'y aura pas de cours parce que je dois aller à Reims pour l'enterrement de notre cher père abbé Bernard de Théris. C'est lui qui nous a reçus. Je ne peux pas ne pas y aller. Indispensable. J'aurais été très heureux de rester avec vous. Et je suis désolé. Je dis pas que je prierai pour vous, parce que c'est... Mais je prierai pour vous, oui, oui. Après, mon père abbé de prier pour vous, du haut du ciel. C'est de l'imprévu, ça, vous comprenez? C'est Dieu qui brouille les cartes pour qu'on soit plus souple. Alors, la vision, la vue, éteint le sens de la qualité, de la détermination, n'est-elle pas liée à l'appréhension? Saisit la détermination première, essentielle, l'acuité. Oui, c'est sûr. Et quand je pars de l'expérience, avez-vous l'expérience de l'appréhension? Voilà. Soyez loyal, avez-vous l'expérience de l'appréhension? Moi, je ne l'ai pas. J'ai l'expérience d'intuition. J'ai l'expérience de saisie. Vous voyez, au fond, c'est la critique qui précise l'appréhension. C'est ça, c'est pour être très rigoureux. Il ne faut pas mettre, vous voyez, une conclusion critique comme expérience. C'est faux. Et ça explique pourquoi la distinction appréhension et jugement disparaît. Et pourquoi la distinction, où elle disparaît, où elle est exagérée. Dans la scolastique, on a séparé, c'était plus une distinction, c'était une séparation de l'appréhension, comme s'il y avait une opération propre. Mais c'est ça que je voudrais que vous compreniez. En critique, très très bien. Je distingue très nettement. Et je suis obligé de distinguer, tout à fait. Est-ce qu'en philosophie du vivant, qu'est-ce que je vais faire? Il faut être loyal dans l'expérience que nous avons. Nous allons les distinguer, ne vous inquiétez pas, mais pas tout de suite, pas tout de suite. Oui, et le sens du son, donc du mouvement, lié à sa source. Lui n'est-elle pas liée à l'intuition qui saisit une relation, celle du fait expérimenté, liée à sa... reliée à son principe, ou ce qu'on croit être son principe. Voyez, tout à fait d'accord, ça vous pouvez le faire en critique. Mais à point de l'expérience, je crois pas. C'est pour bien distinguer les deux. Hein. Que voulez-vous dire quand vous dites que l'appréhension est première, qu'elle ne présuppose rien, pourtant elle est toujours dans un jugement, donc le présuppose. Vous dites ça en critique. On a fait la critique de l'appréhension et du jugement, c'est évident. Alors il ne faut pas mêler. Il faut essayer d'écouter ce qu'il y a de propre comme cheminement à la philosophie du vivant. La critique présuppose la philosophie du jugement. La critique présuppose la philosophie du vivant. désir. Et c'est très important en face de Hegel. Et en face de Descartes. Pas tomber dans le piège. En face de Kant. C'est très très important parce qu'au fond, je ne peux échapper à Kant que si j'ai une connaissance exacte de ma vie intellectuelle. Et c'est ça que j'essaie de redécouvrir avec vous. Aristote le donne dans sa philosophie du vivant, mais nous devons préciser, hein, parce que depuis Aristote, il y a Kant, il y a Descartes. Comment Aristote aurait-il reçu Descartes? Comme il a reçu Platon. Il y a des idées innées. Or, j'ai pas d'idées innées. Comment aurait-il reçu Kant? De temps en temps, il faut dire ça. Faites un dialogue, Aristote-Kant. C'est amusant. Vous amuserez beaucoup. Mais avec un frère que vous baptisez, toi, tu es Kant, moi, je suis Aristote. Et on va dialoguer pendant une demi-heure ensemble. Et c'est très intelligent. Vous l'écrivez et vous le passez en commun comme une récréation. Kant, viens. C'est Kant, il a vécu ça, je crois, loyalement. On a dit que c'était pas tout à fait jusqu'à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, il était le professeur qui redisait ce qu'il avait toujours dit. Puisque le professeur doit être logique avec lui-même. Donc il ne doit pas évoluer. Alors que paraît-il, à la fin de sa vie, quand on croyait plus tout ce qu'il disait. Il paraît, hein, je ne l'ai pas vécu, je ne l'ai pas connu. Et comment Descartes a-t-il... C'est très curieux, la vie de gens qui sont dans l'erreur, vous voyez, parce qu'ils ne peuvent pas. Dès qu'ils creusent, ils sont obligés de voir que c'est pas juste. Je ne sais pas comment ça vit, moi. L'erreur immobilise. La vie et la vérité font que creuse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors on dira, vous n'êtes pas logique avec vous-même, mais on n'est pas logique, quoi. On vit, on vit. La logique, c'est pas du tout la vie. Hein. Alors, que voulez-vous dire quand vous dites que l'appréhension est première? J'ai dit en critique que l'appréhension était un élément. Et c'est pour ça qu'elle est première, comme un élément indivisible. Il ne peut pas aller au-delà dans l'analyse. Tandis que je ne le dis pas ici. Je ne dis pas que l'appréhension, puisque je n'ai pas parlé d'appréhension exprès. Je parlais d'appréhension, oui, mais avec intuition, avec tout un ensemble de choses qui sont premières. L'intuition est première. Quand j'ai une intuition, j'ai l'impression d'une source, d'un point de départ. Et ce sera l'analyse qui montrera que l'intuition implique une appréhension. Vous voyez ? Exprès, j'ai noyé le poisson la dernière fois en donnant ces différents aspects qui descriptivement sont ce premier. Qu'est-ce que la perception ? C'est la même chose. Qu'entendez-vous par ce terme ? Ce que Merleau-Ponty dit sur la perception. Merleau-Ponty met très en lumière la perception. Et c'est intéressant, c'est intéressant, c'est la phénoménologie. Et pour la phénoménologie, la perception existe quelque chose de particulier. Je perçois. Quand vous dites que vous percevez quelque chose, vous atteignez quelque chose, et vous atteignez quelque chose directement, c'est ça la perception. Du reste, Saint-Thomas emploie le mot percipine. Percevoir. Il l'emploie comme une sorte d'expérience. Percipine. Mais perception s'est développée énormément avec Merleau-Ponty. Avec Merleau-Ponty, tout un ouvrage sur la perception. C'est la perception donne l'aspect descriptif. Mais c'est assez psychologique, je perçois. Pourquoi dites-vous que l'abstraction se fait à partir des trois expériences? Deux ne suffisent-elles pas? Oui, c'est sûr. L'abstraction peut se faire à partir d'une seule expérience. Je constate l'abstraction. Alors, on va distinguer différents niveaux d'abstraction, progressivement. Mais la première abstraction, l'abstraction de... Quand vous passez, par exemple, quand vous dites « chat », ça présuppose des quantités d'expériences. Pas seulement trois, mais des quantités. Vous avez vu un chat perçant. Vous avez vu le chat de la voisine qui n'est pas perçant, chat de gouttière. Vous voyez, ensuite, vous dites chat, et vous avez abstrait le chat de gouttière et le chat perçant. Et vous avez dit chat. Mais c'est quand même quelque chose de particulier que vous avez abstrait. Alors vous pouvez abstraire à partir d'une quantité d'expérience, vous pouvez abstraire à partir d'une seule expérience. Mais à quel moment avez-vous fait l'abstraction, chat? J'ai posé cette question à des psychanalystes qui se prétendaient très calés, freudiens. J'ai dit, mais à quel moment on fait l'abstraction? C'est pourtant très important. Freud ne regarde pas l'intelligence, hein, il regarde uniquement l'aspect affectif. C'est Piaget qui regarde l'intelligence. C'est intéressant, tu vois, parce qu'en fond, ils font une étude psychologique uniquement affective, ce qui est absolument impossible. Ils font une étude psychologique uniquement d'intelligence, ce qui est absolument impossible. Les deux se cheminent. Vous voyez ? Alors, comprenez bien, et ça, c'est ça pour ça que j'ai exprès la dernière fois, j'ai essayé de vous montrer ce que représente la philosophie du vivant. On l'a vu au niveau végétatif. On a pris les trois niveaux. Les trois niveaux de ma vie. Ça n'implique pas d'abstraction. Ça implique une constatation. Je constate que dans ma vie, j'ai des expériences différentes. J'ai l'expérience du petit déjeuner le matin. Et cette expérience prend une acuité très grande quand il y a un cours de métaphysique avant. Parce que le cours de métaphysique, le cours de philosophie première, le cours de théologie naturelle n'est pas le petit déjeuner. Pourtant, c'est le même individu. Mais c'est un apéritif très particulier. C'est un apéritif très particulier. Ça excite. Vous prenez votre petit déjeuner avec bien plus de férocité quand vous avez fait un cours de métaphysique. Les jours où il n'y a plus de métaphysique, il manque d'apéritif. Vous sentez, j'espère, si vous ne sentez pas, essayez de le sentir pour vous apercevoir qu'il y a une différence de degré de vie entre le point de vue du repas et le point de vue de la réflexion, et le point de vue du sommeil, et le point de vue de la prière, et le point de la prière solitaire, et le point de vue de la prière liturgique. Il y a des expériences différentes. En réfléchissant sur mes expériences, je vois que je peux dire qu'il y a des opérations où le corps est présent. Des opérations vitales qui se réalisent dans mon corps quand je mange. Il y a des opérations vitales qui existent dans ma tête. Je vois. Difficile de voir avec son pied. Je vois avec mes yeux. Et si j'ai les yeux fatigués, je vois très bien ce que c'est que la vision. Et si je perds la vue, je vois très bien ce que c'est. dans le manque, vous voyez, qui me fait mieux voir. Et en appelant le mot vision, ce qui me fait le mieux voir, c'est très connu. C'est sûr qu'il y a un lien entre la vision et l'intuition. Je suis tout à fait d'accord. Mais dans la philosophie du vivant, c'est pas ça que vous cherchez. Ça, ce sera en critique, voire la continuité. En philosophie du vivant, vous cherchez l'expérience. L'expérience de mes différents. L'expérience vitale. La vie végétative. La vie sensitive et passionnelle. Passionnelle. Et puis la vie intellectuelle. Bon, c'est la première chose à voir, c'est les 3 degrés de vie. Très nettement. Et voir que ces 3 degrés de vie donnent un point de vue toujours plus aigu de la connaissance. Et je m'aperçois que la vie implique une assimilation, toutes les opérations vitales impliquent une assimilation. C'est très important ça. Je constate ça. J'assimile au niveau végétatif. Et c'est propre au vivant. C'est propre au vivant. Tout vivant assimile. Consciemment ou inconsciemment. Est-ce que l'arbre assimile consciemment? Je ne crois pas. Je m'ai fait de confidence, mais je ne crois pas. Est-ce que vous êtes conscient quand vous voyez, quand vous touchez, quand vous sentez qu'il y a une assimilation? Oui, je peux être conscient. Mais je suis conscient grâce à mon intelligence. Une bête qui n'a pas l'intelligence, quand une vache regarde le TVG passer, elle a conscience de quoi? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Elle a des gros yeux. Qu'est-ce que je veux dire? Mais est-ce qu'elle sent quelque chose? J'en sais rien. Mais je connais très mal la vie des animaux, hein. Très très mal. Je projette sur les animaux tout ce que je sens. C'est pour ça que je ne fais pas la philosophie des araignées. Je constate que les araignées ont un irascible très développé. Mais je ne peux pas faire plus. Je fais la philosophie de ma vie. C'est ça qui est très particulier. Et je suis là en présence d'une introspection constante, constante. C'est vrai, je suis capable de distinguer les différents sens. Je suis capable de distinguer ces opérations de vie sensible, sensitive. Et j'essaie de voir ce qui caractérise ma vie intellectuelle. Et je vois que ce qui caractérise ma vie intellectuelle, c'est le passage de la représentation à la sensation, à la signification. Où y a-t-il signification dans l'intuition? Il y a signification dans le fait de saisir quelque chose. Je prends toutes les opérations que nous avions vues la dernière fois, qui me paraissent comme des opérations premières, simples. Et j'en vois comme ça toute une série. Je réfléchis maintenant, puisqu'il faut analyser. Le philosophe analyse. Hein. Le philosophe analyse. Qu'est-ce qui distingue ces opérations qui paraissent simples, comme l'intuition, comme l'expérience, comme le point de vue, affective et connaissance tout court. La connaissance esthétique, c'est pas embrasser quelqu'un. Non, c'est de l'imaginer. C'est saisir qu'il a des yeux particuliers, qu'il a un regard unique, qu'il a un nez qui caractérise ce qu'il est. Mais ça, c'est la connaissance esthétique critique, où je fais tout de suite la caricature. Très souvent. Alors, j'essaie d'analyser est-ce que l'appréhension, est-ce que je veux dire, est-ce que l'intuition est une connaissance simple ? Parce que je décris d'abord ce que nous avions décrit la dernière fois. Puis je décris, je peux très bien faire ça en parallèle, je décris l'activité du discernement. Je peux discerner. Krinein, discerner. Je peux juger. Je peux critiquer. Je peux adhérer à la réalité. Ceci est. Mais faites, c'est facile à faire. Faites un petit tableau de toutes les expériences que vous avez de la connaissance, de votre connaissance intellectuelle. À partir de la distinction représentation-signification. Toutes vos connaissances qui signifient quelque chose. C'est la première chose qu'on doit faire. C'est un inventaire, toujours, en philosophie du vivant. On aime les inventaires. J'ai conscience de ma vie intellectuelle. J'ai conscience que ma vie intellectuelle est d'une richesse étonnante. Il y a quelques opérations type. Et puis je raisonne. Donc je peux prendre conscience, et c'est la première chose à faire au point de vue philosophie du vivant, je peux prendre conscience que j'ai des activités intellectuelles qui toutes impliquent une signification, qui toutes impliquent, au-delà de la signification, une adhésion ou des raisonnements. Et tout ça, c'est des opérations intellectuelles. Et je peux les décrire. Et je cherche ensuite à analyser. Est-ce que ces diverses opérations relèvent-elles de la même puissance ? Pas une chose à faire. Est-ce que ça relève de la même dynamis ? De la même puissance. Pour relever de la même puissance, il faut chercher ce qui détermine cette faculté, cette puissance. Qu'est-ce qui la détermine ? C'est là où ça devient intéressant. Qu'est-ce qui détermine la connaissance intellectuelle ? Après la description, je peux me poser la question : qu'est-ce qui détermine ces diverses opérations dont j'ai conscience. Je vois que mon intelligence est déterminée par ce qu'on appelle les déterminations, les formes. On peut découvrir, non seulement, ce point de vue de la détermination, de la quidité, mais je peux saisir aussi des relations dans les raisonnements. Je saisis des relations dans le mouvement dialectique. Je saisis des relations. Mais je vois que ma saisie de relation est beaucoup plus complexe. Un raisonnement, c'est complexe. Tandis qu'il n'y a que la saisie quiditative de la réalité qui est simple. Et dès que je vois que ma saisie quantitative est simple, je peux dire que je suis en présence d'une première opération. Oui, d'une première opération qui se donne à moi toujours dans la complexité. Alors ça, c'est la constatation extrêmement curieuse que l'intelligence a un conditionnement extrêmement complexe. Toute cette zone de méconnaissance intellectuelle, extrêmement complexe. Et cependant, qu'à travers cette complexité, il cherche quelque chose de simple. Il me semble, au point de vue philosophique du vivant, que c'est la première distinction que je dois faire. Je suis en face d'une quantité d'opérations dites scientifiques qui impliquent une très grande diversité. Et il y a une première opération où j'assimile. Je ne critique pas, j'assimile, je reçois. Je vous ai déjà dit que quand vous suivez un cours, n'essayez pas premièrement de critiquer, parce que vous ne retiendrez rien. Essayez d'assimiler. C'est-à-dire de comprendre tout simplement ce qui est dit. De comprendre à travers le langage ce qui est dit. C'est le premier moment de ma vie intellectuelle. Je reçois. Je reçois de multiples manières par quelqu'un qui me parle, je reçois par la réalité toute simple, je reçois en étant attentif. Il y a une attitude de réceptivité qui est fondamentale dans la vie intellectuelle. Le jour où on ne sait plus recevoir d'un autre quelque chose, notre vie intellectuelle ne progresse plus. Il y a un besoin de recevoir d'un autre, d'assimiler d'un autre, pour qu'on progresse vraiment dans la vie intellectuelle. C'est le terme que donne Aristote que j'aime beaucoup, hypolepsis. L'intelligence, elle est attentive et elle reçoit. Hypolepsis. Et je crois qu'en effet, c'est ce qu'il y a tout à fait premier. Je reçois et j'ai l'impression que je peux recevoir indéfiniment. Il n'y a pas de limite. Alors je pourrais être fatigué, ça c'est autre chose. Je pourrais avoir un désir de boire de la soupe. Ça c'est autre chose. Ben. Mais en soi, il n'y a pas de limite. L'intelligence n'est pas limitée dans cette recherche de recevoir. Elle peut être fatiguée à cause du corps, mais pas elle-même. Il n'y a pas de fatigue intellectuelle comme telle. Il y a la fatigue des yeux, il y a la fatigue de notre corps qui est fatigué, mais il n'y a pas de fatigue, proprement intellectuelle. Ça, c'est important à concevoir et à bien saisir. Alors, il y a cette attitude hypolepsis, l'intelligence reçoit. Mais qu'est-ce qu'elle reçoit? Qu'est-ce qui détermine cette attitude de réceptivité de l'intelligence? Parce que recevoir, c'est être attentif à accueillir quelque chose qui n'est pas moi. Quelque chose qui me détermine et qui n'est pas moi. Alors cette attitude de réceptivité qui fait que je reçois et que je reçois et j'assimile. C'est pas seulement recevoir. C'est pas seulement recevoir pour décrire. Ce n'est pas seulement recevoir pour dire que l'intelligence est reflet. que l'on connaît la cathédrale, la basilique. Non. Notre intelligence peut être une intelligence qui se satisfait de refléter. Elle ne connaît pas. C'est pas la même chose. Refléter et connaître. Refléter, c'est le miroir qui reflète. Qui reflète l'autre. Connaître implique une assimilation. Je connais ceci et je le garde. Parce qu'avant, il n'y avait rien d'intéressant. Refléter, c'est donc être passif. Assimiler, c'est d'être actif et c'est transformer ce qu'on assimile. C'est le transformer parce que je n'assimile pas tout. C'est sûr, quand vous connaissez une rose, vous ne l'assimilez pas biologiquement, mais vous l'assimilez intentionnellement. Ah, ça, je peux le dire en philosophie du vivant. C'est que quand je regarde la rose et que je la connais, je dis cette rose est magnifique. Ce n'est pas parce que vous la connaissez que vous la changez. Ça, c'est très curieux comme phénomène. On peut être fin à regarder le même spectacle et le spectacle n'est pas usé parce que vous le regardez. Il y a que certaines personnes qui croient qu'on a l'œil mauvais. On voit quelqu'un. Il y a des gens comme ça qui ont peur des curés. Hein? Si je touche du bois, hein? Je devrais toucher toujours du bois parce que je vois des tas de curés devant moi. Tu vois, là. Ouais, tu veux pas avoir le mauvais œil et le mauvais. C'est curieux que la connaissance ne change pas. La réalité, je vois, non, et pourtant j'ai changé. Alors on a inventé un mot pour exprimer ça, l'intentionnalité. Et il faut comprendre ce mot en philosophie du vivant. On a déjà employé le même mot, intention, en éthique, distinct de projet. L'intention n'est pas un projet. Et aujourd'hui, hélas, on confond constamment projet et intention. Mais c'est pas du tout la même chose. L'intention est morale et le projet est du fatiré. J'ai le projet de faire un voyage. Vous pouvez dire aussi que j'ai l'intention de faire un voyage. Et là, vous êtes dans un ordre intentionnel. Ce que vous devancez, c'est pas la réalité, vous n'êtes pas en voyage. J'ai le projet. Ça me repose beaucoup hein, quand je suis fatigué d'un coup de projeter au vie. Demain, vacances. Alors on projette d'avance. On n'est pas dans la réalité. On n'est plus dans la réalité. On est dans l'imaginaire. On est dans le volontaire. Dans la bonne intention qu'on a. Et vous retrouvez alors, d'une façon beaucoup plus particulière dans la philosophie du vivant, un domaine nouveau d'intentionnalité. C'était déjà vrai dans le domaine sensible. Puisque quand vous voyez la rose, vous ne la changez pas. Quand vous sentez l'odeur du pain frais, pas le petit déjeuner intentionnel, auprès d'un boulanger, à 4h du matin, je ne demande pas de faire l'expérience, parce qu'ici c'est un petit peu difficile, mais vous l'avez déjà fait avant. Et si vous ne l'avez pas encore faite, et vous la ferez un jour dans votre vie. Dans une marche de nuit, on arrive dans un petit village, on a très faim, et puis on voit la seule chose allumée, le boulanger. Il dit toujours matin très tôt. Et il est au poisson fourré. différence entre la vie et la métaphysique? Qu'est-ce qui distingue le vivant de la réalité physique? C'est que la réalité physique n'implique pas d'intentionnalité. Et le vivant, il fabrique de l'intentionnel. Et plus il est vivant, plus il s'entoure d'intentionnalité. Et s'il va jusqu'au bout, il voit que son intentionnalité l'enveloppe d'une façon immanente. Et je peux demeurer dans cette intentionnalité et croire que cette intentionnalité est le réel. Alors ça, c'est bien maladif. Parce que la maladie, c'est ça. La maladie, c'est de confondre le réel et l'intentionnalité. Et donc, je découvre dans ma vie intellectuelle ce premier moment où j'assimile, pour saisir, j'assimile intentionnellement. Et qu'est-ce qui détermine cette intentionnalité? C'est la réalité. Mais la réalité, en tant qu'elle est sentie, en tant qu'elle est portée dans mon imagination, c'est donc l'image, l'icône. Ça, je peux faire l'expérience de ça, et même je dois en faire l'expérience. Si je réfléchis sur ma vie intellectuelle, je vois que ma vie intellectuelle demeure liée à une image. Mais qu'au-delà de l'image qui représente, il y a la sens, il y a la saisie. Il y a la représentation. Il y a la saisie d'une certaine détermination. C'est à ce moment-là que je passe, vous voyez, de la réceptivité à l'assimilation et à l'appréhension. Alors je saisis vraiment en analysant. Je dis bien en analysant, je saisis vraiment que ma première opération intellectuelle, c'est d'appréhender. Et voyez comment je saisis, en voyant qu'il y a en moi une connaissance intellectuelle qui signifie, qui a sa signification. Et que cette connaissance intellectuelle se fait à partir de l'image, à partir de mes images, et où mon intelligence assimile. Cette assimilation présuppose consciemment mon intelligence assimile quelque chose, elle le reçoit. Elle le communique à un autre. Elle reçoit au plus intime d'elle-même en se l'assimilant et en formant en elle un concept. Vous voyez, ça je peux le décrire, du moins je peux l'analyser. Mon intelligence est déterminée par quelque chose de tout à fait premier. Qui est la quiddité, qu'on appelle quiddité, la détermination première. Et c'est ça que j'assimile. Je n'assimile pas l'exister. Non. L'exister d'un autre n'est pas assimilable pour moi. Qu'est-ce qui est assimilable? C'est sa détermination. Oui, c'est là le point de vue très délicat et qui est très important. Parce que qui me fait comprendre la différence entre l'appréhension qui me permet d'assimiler et le jugement qui me permet de discerner. Et je vois à ce moment-là qu'il y a bien deux opérations fondamentales de ma vie intellectuelle. Assimiler, discerner. Assimiler, qu'est-ce que j'assimile? Les déterminations. Ce qui est assimilable. Je n'assimile jamais l'exister d'un caillou. L'exister de mon ami, non. Parce que je sais que par son existence, il est autre que moi. Tandis que ses déterminations, oui, je les assimile, je les porte en moi. Je peux lui tourner le je les porte en moi, tandis que son existé, ah non, son existé est là présent. Vous voyez, comment je puis, en vue de la vie du vivant, maintenir ces deux moments importants de faire que la réalité extérieure à moi devienne à moi. Ou faire au contraire que je suis capable de discerner dans ce que j'assimile, discerner ce qui peut être assimilé.